bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale autour de la table, Albert Aldou.
Bonjour.
Alison Wheeler.
Bonjour.
Frédéric Sigrist. En deuxième heure, Tanguy Pastureau. Oh, c'est oui. Une bande originale version vacances, version bonheur, car version sans Nagui, mais oui. Avec Leïla Kadour.
Vous êtes c'est dégueulasse. Bonjour à tous.
C'est
salut
immonde.
Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités aujourd'hui dans la bande originale sont Vanessa Guide et Max Boublil.
Ah, bravo.
Double dose. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous?
Très bien.
Et toi, ouais, ouais, super, mais mon casque marche pas.
Bon, on va régler ça. On va régler ça.
Tourner le petit volume.
Il faut tourner le bouton. En fait,
voilà, il faut lui expliquer.
Tout simplement le bouton où il y a écrit volume. Son du casque, c'est écrit son du casque.
Et Vanessa, il n'y a aucun piège.
Ouais, non,
vous pouvez y aller.
En tout cas, le dernier échange retranscrit bien votre relation dans le film comme des garçons. À savoir que vous ne vous supportez pas. Alors, on va peut-être, en tout cas, au début, on va peut-être raconter rapidement en quelques mots. Tenez, Max, vous allez vous y coller. L'intrigue de ce film, comme des garçons, il est question de football, on est dans les années, fin des années 60, début des années 70, à vous.
À moi. Alors c'est la véritable histoire de la création de la première équipe de foot féminine. Bon, ça parle pas que de foot, hein, ce film, c'est avant tout une comédie romantique, une comédie sociale. Mais voilà, c'était un journaliste d'un petit quotidien régional que j'incarne, qui a voulu faire une bonne blague parce qu'on lui dit il va falloir organiser la kermesse. L'année dernière, c'était un match de catch de nains. Qu'est-ce que tu peux trouver de plus ridicule? Et lui, la première idée, c'est de se dire des filles qui jouent au foot, c'est ridicule. En plus, ça permet de voir des filles en short. Et voilà, c'est le départ de l'intrigue.
Et vous, Vanessa, vous êtes au sein de ce club de foot de Reims vous êtes secrétaire et vous allez faire partie de cette équipe. Vous êtes censé co-organiser cette kermesse avec ce journaliste assez imbuvable qui se fait virer de partout et qui est un peu, macho hein, dans sa perception de la vie. On va reparler de vos petites aventures de lover.
Il est détendu.
Tout ce qui est féminin généralement l'intéresse, c'est un peu ça l'idée.
C'est un ringard, hein, c'est un minet de province comme il y en avait à l'époque et
comme il y en a sûrement
tout, ils sont un peu différents maintenant ils ont plutôt des crêtes sur la tête et tout, mais voilà, c'est je sais pas, cliché un petit peu.
Et vous Vanessa, votre personnage au départ est assez stéréotypé, c'est-à-dire que vous êtes cette femme qui est très obéissante,
chignon serré, lunettes,
qui travaille de façon très sérieuse, qui considère que le travail c'est une forme d'émancipation pour la femme et qui va se retrouver plongée dans cette histoire.
Oui, bah c'est vrai que c'est une belle trajectoire pour le personnage que j'interprète, parce qu'elle commence en étant très réservée, un peu effacée. C'est vraiment, la petite secrétaire qui veut bien faire son travail. Elle n'est pas là certainement depuis 10 ans, hein, c'est une jeune femme. Et donc Max, qui travaille au Champenois, c'est le journal dans lequel on travaille tous les deux, ne connaît même pas mon existence, puisque quand mon directeur lui dit « Vous allez travailler avec Emmanuel Bruno », il lui répond « C'est qui ce type ?» Et donc ça prouve à quel point il est au courant.
Faut préciser qu'au départ c'est une punition pour le journaliste.
C'est la honte, parce que lui il aime être sur le terrain et tout, et puis on lui dit tu vas faire la kermesse. Pour lui c'est ridicule d'organiser la kermesse, et en plus avec une femme qu'il a même pas vue, qui remarque même pas, parce que elle a des petites lunettes.
Ça, d'ailleurs, c'est l'incohérence du film.
Elle est quand même jolie dès le départ.
Même avec des lunettes et un tailleur strict.
Bien sûr.
C'est impossible qu'on la remarque pas.
Même un peu plus sexy.
Vous êtes
même sympa,
mais c'est parce que j'ai pas de décolleté. Après, au début, il est un peu intéressé que par les décolletés.
Et puis, votre personnage a surtout un père qui est une légende du football et qui va faire de vous la pièce maîtresse de cette future équipe féminine. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à ce projet? L'histoire, vous la connaissiez déjà, cette histoire?
Moi, je la connaissais pas du tout.
Ouais. Non, on a regardé, avant même de passer le casting, j'ai regardé un documentaire que Julien Anard nous avait conseillé de regarder.
Julien, le réalisateur.
Et c'est un documentaire qui retrace l'épopée de ces filles-là. Il est vraiment super, ce documentaire. Il passe sur Lina. Il passe.
On le trouve.
N'attendez pas, chez vous qui passe. Allez le chercher quand même, allez le chercher.
Lina, entre 16h et 16h30
sur cette
merveilleuse chaîne.
Sur Lina.
Non, mais c'était une histoire. Moi, au début, j'étais content quand j'ai reçu le scénario, parce que souvent, quand on reçoit une comédie, il faut dire la vérité, en ce moment, c'est la mode, c'est des comédies où il y a que des vannes, où c'est des sujets actuels, c'est-à-dire que ça se passe dans des appartements parisiens en ce moment avec que des vannes et des problèmes de trentenaire.
Généralement des 200 mètres carrés.
Généralement des 200 mètres carrés, même si les gens sont stagiaires. et c'est toujours la même chose. Et là, tout d'un coup, il y avait une histoire, il y avait un fond, il y avait un propos, il y avait vraiment une histoire que tu avais envie de suivre. C'est la création de la première équipe de foot et une époque, et c'est très rare. Dans les comédies.
Comme un garçon, et forcément on pense à elle.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je
distribue. Et en effet, cette équipe féminine est constituée vraiment d'éléments très hétéroclites, parce qu'on peut y retrouver aussi bien une mère au foyer qui s'ennuie et qui se dit pourquoi pas, des jeunes femmes un petit peu plus garçons manqués qui
veulent casser la gueule de tout le monde.
c'est ça, il y a un super casting.
C'est
dans
un peu les Spice Girls avant l'heure.
Les Diams.
Non, mais c'était la véritable histoire de la première équipe. C'est vrai qu'il y avait une des joueuses qui s'appelait Mamie. Bon, elle avait 38 ans. Elle avait les cheveux blancs. Il y en avait une, voilà, qui avait 17 ans. C'était un espèce de melting pot de filles qui avaient envie de jouer au foot. D'ailleurs, quand ils ont mis l'annonce dans le quotidien, le journaliste que j'interprète, il pensait que personne ne répondrait. Il pensait qu'il n'y aurait pas. Et il y a eu 1000 postulantes.
Et comment vous avez préparé votre rôle ? Parce que pour le coup, vous, Vanessa, on vous voit dribbler, jouer. Max, on vous voit vous faire sécher.
On me voit fumer au bord du terrain et faire « Allez les filles, allez, allez, allez !» Bah, c'était de la préparation, il fallait se mettre à la clope.
C'est vrai que ça clope beaucoup, parce que c'est l'époque, ça clope de partout.
Et il a un entraînement clope intensif. Depuis, il est au Nicorette, il n'arrive pas à décrocher.
Vous, Vanessa ?
Moi, écoutez, toutes les filles ensemble, on s'est entraînées 6 mois en amont. 3 mois tout ensemble. Et moi, comme je suis censée être la meilleure de l'équipe et que je partais d'encore plus loin que tout le monde, je crois, parce que moi j'ai fait exclusivement de la danse et de la gym et jamais touché un ballon de ma vie avant ce film, j'ai demandé à une amie qui est devenue la coach du film, qui s'appelle Aurélie Ménard, qui est une grande joueuse, de me faire un espèce de bilan de compétences, donc 6 mois avant le tournage.
Alors ?
Et elle m'a dit, c'est la cata. Non, elle m'a dit, bon, c'est bien parce que t'es sportive, on voit que t'as de l'endurance et tu sais courir, c'est déjà ça. Mais par contre, on dirait que tu danses ta samba quand tu fais des dribbles, des passements de jambes, ça va pas du tout. Donc j'avais tendance à avoir les bras comme ça, qui se baladaient. Voilà.
Vu que ça et le réalisateur n'avait pas exigé au départ un minimum de compétences en foot. Vous avez menti ou
non,
avez...
pas vraiment. Je lui ai dit que j'étais sportive et que j'aimais les défis et que ça me faisait pas peur du tout. Effectivement, j'ai tout fait. J'ai fait en sorte que d'être crédible. Et je me suis beaucoup entraînée trois fois par semaine. Pendant 6 mois.
En tout cas, ça marche. On vous voit dans le film, vous dribblez tout le monde. Là, c'est incroyable. Quelle technique.
Merci.
Elle a bien bossé. Hein.
Ah ouais,
moi, je les ai vues. Hein, elles bossaient vraiment, les filles. Moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là ? Je sais pas, mais vous bossiez.
Fumez des clopes.
Vous révisiez vos cours de drague, quoi.
Voilà,
c'était un peu. C'est Dear Prudence.
Oh là là. Ah, c'est lui. Dallas.
Il y a un brushing qui prend du temps aussi.
Un brushing qui prenait 20 minutes. Oui,
ça c'est pas mal comme réplique. C'est-à-dire que voilà, les filles qui jouent au football, ça vous semble complètement dingue. Et une des joueuses que vous castez vous rétorque, ça vous semble pas dingue, vous, d'avoir un brushing.
Et auquel je réponds, c'est pas un brushing, c'est naturel, avec les cheveux lissés à l'extrême.
C'est vrai qu'il y a aussi le plaisir du costume, de voir les cadres et les bagnoles. Toute une époque qui ressuscite le temps de cette comédie.
En tournée, on a eu une réplique très très drôle il y a quelques jours. Il y a une petite fille de 9 ans qui nous a dit « Vous avez vraiment tourné en 1969 ?»
Oh, c'est mignon. Qu'est-ce
que les enfants sont idiots. Je crois que c'est sympa. Ouais. Je vais vous présenter un garçon. Je partage avec lui la passion du brushing. C'est Frédéric Segrist. Frédéric Segrist, est-ce que vous avez compris pourquoi nos invités sont là aujourd'hui ?
Daniel, je dois avouer qu'initialement, non.
Non,
non, bah, non, mince. J'ai pas compris pourquoi ils étaient là. Hein. Quand Jean-Baptiste Bussière, notre rédacteur en chef en fin de vie, et Delphine, son auxiliaire de vie, m'ont dit qu'on allait recevoir Max Boublil, l'interprète du tube inoubliable Tu vas prendre, chanson annonciatrice d'un rapport charnel, épuisant, susceptible de déranger les voisins, le tout dans une émission présentée par Leïla Kadour-Boudadi, la Louise Michel de France Télévisions, j'eus un moment de doute, semblable à celui du spectateur qui découvrirait en allumant sa télé Bernard Pivot en train de mettre des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau sous les gloussements forcés de Cyril Hanouna. là. Je ne pense pas vous faire insulte, monsieur Boublil, en disant que vous n'avez sûrement pas écrit cette chanson en ayant les auditeurs de France Inter pour cœur de cible. Rappelons que vous êtes issu d'une génération qui assoit son succès en nombre de vues, tandis que la radio mesure son audience en nombre de vieux. Néanmoins, alors que je me félicitais intérieurement de cette ouverture d'esprit nouvellement acquise au sein de la Maison Ronde, Daniel Morin, qui est un peu pour nous chroniqueurs le père Fouras de la station, enfin, le père Fouras dirait Albert Algou avec sa faconde rablésienne, vint à me dire « Ben penses-tu, Boublil vient nous voir avec Vanessa Guide pour un film sur une équipe de foot féminine qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer en 1969 dans une France misogyne, dominée par des hommes qui fument des barreaux de chaises dans des bureaux qui puent le tabac froid et la testostérone. Il n'en fallait donc pas plus pour réveiller l'intérêt de notre suffragette préférée. » Donc, je préfère vous prévenir tout de suite, monsieur Boublil. Vous pensiez sûrement faire la promotion d'un film fort réussi au demeurant, dans une ambiance culturo-potage de bon aloi.
Il n'en est rien.
Durant une heure et demie, nous allons surtout parler féminisme, avec une animatrice ceinture noire, troisième date de militantisme genré. Et s'il est vrai qu'habituellement, en lieu et place de Leïla, vous auriez trouvé en Agui un bon client, pour un humour grivois, voire salace, aujourd'hui, je ne saurais que trop vous conseiller de garder le silence. Répondez par oui ou par non, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Ne vous fiez surtout pas à son apparente amabilité de début d'émission. Derrière ce sourire et ses cheveux qu'elle a volés à Laurent Delahousse, se cache la version hardcore de Rosa Parks. Vous n'imaginez même pas quelle fut sa réaction quand, lors de la projection, elle apprit qu'en 1970, une femme devait encore demander une autorisation à son mari pour pouvoir jouer au foot. Vous l'auriez vu, on aurait dit Alain Finkielkraut à un spectacle de Dieudonné. Bref, si le film nous apprend une chose, c'est que Vanessa s'est allée droit au but. Alors, pour un peu plus de parité, monsieur Boublil, ce matin, faites comme Albert, Daniel et moi, restez sur le banc de touche.
Merci Frédéric, c'est gros. France Inter.
La bande originale. C'est vrai ça, parce que dans Comme des garçons en toile de fond sont aussi exposées voilà, les conditions de vie de la femme à l'époque, à savoir qu'on ne pouvait pas travailler sans demander l'autorisation à son époux, qu'on ne disposait
ouvrir un
pas,
compte en banque voilà, sans demander l'autorisation
ni d'un carnet de chèques, et que vraisemblablement dans le film en tout cas, pour participer à cette équipe de football, il fallait aussi avoir l'autorisation soit du mari, soit du père, selon l'âge que vous avez. En gros, c'est complètement fou.
Le bon vieux temps.
Ouais. À l'époque, ça marchait droit.
Eh oui, tout se perd.
À l'époque, on était tranquille, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, on tape pas mal de. Bon, c'est une mode depuis 10 ans de taper un peu sur les acquis de mai 68 et dire que c'était une révolution. Bah, il y a beaucoup, on entend beaucoup ça en ce moment. Et on se rend compte quand même qu'avant mai 68, c'était un peu grave,
c'était
quoi.
Regarde, mieux c'était. Avant,
ouais, on regarde, les femmes étaient juste secrétaires et les. Non, mais c'est vrai. En ce moment, on entend beaucoup mai 68, ça a servi à rien dans la bouche de certains et tout, et on se rend compte que c'était vraiment poussiéreux avant.
Ouais, et que l'avancée a été vraiment concrète. Vous, dans votre personnage, Vanessa, c'est pareil, quand on le disait, vous êtes secrétaire un peu stéréotypée, vous avez dû apprendre à taper à la machine, j'imagine, pour incarner un peu le rôle.
Oui, aussi.
Et voilà, ça fait partie des plaisirs de l'époque.
Et là, c'est pareil, à quel talent, là, on vous voit, là, une fluidité de frappe.
Bravo. Peut-être meilleur qu'au foot, finalement.
Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais...
Et on voit c'est vrai que t'as pris des cours de dactylo.
J'ai pris aussi des cours de dactylo.
Ouais,
aussi, en plus.
Ouais. Elle a bossé, elle, son rôle.
Plus, j'ai travaillé l'italien.
Pas juste sourire dans les comédies romantiques, Alison.
Il y a un message...
En mangeant un donut, en buvant un café latte.
Il y a un message criminal, c'est...
Non. Vous connaissez le truc entre nous, c'est tout.
Il est jaloux. Il fait ça.
Non, c'est Benabar qui lui a dit.
C'est pas possible. Reprenons Vanessa, simplement. Ces avancées-là pour les femmes, ça fait partie aussi du message du réalisateur. C'était important pour lui. Est-ce qu'on peut parler d'un film militant de son point de vue à lui ?
Oui, de son point de vue à lui, totalement. Il le dit très souvent en interview, donc je ne vais pas le trahir, que pour lui, c'est quand même un film un peu féministe. Ouais. Et il en est fier. Après, ce qu'il ne voulait pas, c'est trahir la volonté de ces réelles joueuses, donc les filles de Reims, qui pour elles n'étaient pas des militantes. Elles se sont battues pour un droit précis qui était de pouvoir jouer
le
au
plaisir
foot,
de jouer,
mais elles n'avaient pas envie d'être assimilées.
Elles avaient le MLF contre elles.
Voilà. Oui, alors justement, il y a une scène
ça,
dans le film
d'être assimilées aux féministes de l'époque. Tu vas encore beaucoup.
Pardon.
C'est man spreading, donc ça aussi, c'est un rapport à la liberté de la femme.
Voilà, man rupting.
C'est pas faute de vous avoir prévenu.
Ouais, vous les avez rencontrées, ces joueuses ?
On les attend encore.
On va les rencontrer lors de la projection qu'on a à Reims très bientôt.
Et il y avait véritablement votre personnage, c'est-à-dire cette joueuse incroyable, fille de joueur italien professionnel, le boucher des pouilles.
Ça a été un peu romancé. Ouais. Il y avait évidemment, je pense, une leader. Non, ça, c'est
le boucher des pouilles.
Ouais, le boucher des pouilles,
c'est
le surnom.
Attention quand on prononce ça.
Ne pas confondre avec.
Et même vous avez un partenaire de jeu qui est Bruno Lechet, qui est
auquel on rend pas assez hommage.
Formidable
dedans. Et oui, tout à fait. Non, mais pour revenir sur
le. Il y a un petit côté coup de tête en plus dans ce film-là, tout d'un coup. Forcément, parce que dès qu'on est dans l'univers du foot, un peu des amateurs, qu'on voit que la trame principale en réalité n'est pas tant le foot que ça, mais la société, l'intégration et comment elle évolue. Forcément, on a cette référence en tête. Vous l'aviez vous aussi. Le réalisateur parfois donne des devoirs à faire à ses comédiens. Au-delà de la chaîne INA qu'a créé Vanessa tout à l'heure avec ce documentaire qui passe en boucle, est-ce que vous avez eu d'autres lectures imposées ou d'autres choses à voir?
Non, il nous a pas demandé tant que ça parce que lui, il était très intéressé quand même par la comédie et la comédie romantique dans l'histoire. Et il voulait pas qu'on copie ou qu'on fasse comme un autre film, mais la référence est flatteuse en tous les cas, coup de tête.
Il y a aussi une référence au film américain, Une ligue hors du commun, avec Madonna et Gina Davis.
Et surtout à Jula comme Beckham aussi.
Il était bien ce film.
Mais celui-là est encore mieux.
Et de la musique, et encore de la musique dans ce film, notamment.
Eh oui.
Forcément. Et là, Alison ne tient plus en place.
Ouais. Dès qu'on met les formants. Dans les toits. Il y a forcément, quand vous avez su qu'on allait parler football, vos oreilles ont sifflé.
Là, forcément, j'étais ravie. Je me suis dit, voilà.
Elle a sauté de joie. Elle était
l'occasion de montrer mes compétences en la matière. Sous-exploitée, vraiment.
Ouais,
même.
Trop sous-exploitée.
Ouais, vraiment, critiquée le plus souvent. Quand je pense à vous, Max et Vanessa, je pense à vos premiers émois en matière de culture. Et notamment.
En rentrant dans le studio.
Je parlais pas de cette
culture. J'ai décidé de lire un livre hier soir. Pour la première fois de ma vie.
Et bien, justement, on va en parler.
Un Picsou. Et ça m'a pas plu. Voilà.
Et vous, vos premiers émois en matière de culture, Max, je pense à ça, cette petite phrase culte.
I'll be back.
Ah oui, d'accord. Donc ça, tout de suite, on monte le niveau du jeune homme.
Alors là, je m'inscris en faux parce que.
Mais il va pouvoir s'expliquer. Il y a rien de risible
c'est
Terminator.
Mais c'est mich-mich, James Cameron. C'est entre l'abominable et le culte. Ouais, c'est ça. Terminator. Premier film que j'ai vu, j'étais très très petit et je me souviens que mon père m'avait mis sur ses épaules pour passer, parce que c'était interdit au moins de 12 ans et je l'avais vu, j'avais beaucoup moins que 12 ans. C'était mon premier émoi. Ça et Le Grand Pardon aussi.
Le Grand Pardon. Alors,
exactement.
Oui. Ça, c'est pareil, c'est votre père qui vous a entraîné au cinéma.
Qui m'avait emmené voir Le Grand Pardon, exactement. Quand j'étais tout petit, Place de Clichy. Place de Clichy avec, une copie quand même du parrain. Hein, ouais. Finalement, ça, je l'ai découvert plus tard. Mais, ça fait partie de mes premiers émois. J'allais beaucoup au cinéma avec mes parents quand j'étais petit.
Et vous vous identifiez à quel acteur à l'époque?
Pas Roger Hanin, ni Schwarzenegger. Hein, je pense que c'est assez évident.
J'ai tenté le coup, on sait jamais, ça aura mal entendu.
Alors, il n'y a pas de honte.
C'est plutôt là, j'identifierais plutôt Roger Hanin, un vieil oncle, un soir de Shabbat.
La mort des sœurs, tu vas t'en prendre une.
Je sais pas, je pense qu'un peu plus tard, on voulait tous ressembler à Leonardo DiCaprio quand j'avais 12-13 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est raté, hein.
Je me suis plus orienté vers Enrico Macias physiquement, hein, c'est bizarre.
Hein. Je ne vais pas dire, mon fils.
Je l'ai vu hier, Enrico Macias.
C'est pas vrai.
Dans un restaurant, il est formidable.
Plus tard, vous avez quand même d'autres références, même si c'est Le Grand Pardon et Terminator, c'est super, hein, je veux dire.
Mais Terminator, c'est presque un film d'auteur, Terminator.
C'est formidable.
C'est pas péjoratif du tout.
Et le 2, pareil, c'est un réalisateur incroyable.
Donc James Cameron.
Il est capable du pire et du meilleur.
Piranha 2,
donc souvent du pire.
Et ça, c'est le cinéma, mais sinon, vous avez été, vos premiers émois culturels hors cinéma, c'est quoi?
C'est le cinéma.
C'est, bah, franchement, non, je peux pas mentir, c'est le cinéma. Même si j'avais des parents qui essayaient de m'emmener dans les musées et tout ça, je m'intéressais pas tant que ça à la peinture, mais c'est vraiment le cinéma. Moi, quand j'ai été au cinéma, j'avais, je sais pas, 6-7 ans les premières fois et j'allais voir des films pour adultes et j'y vais souvent. Ouais. J'adore le cinéma.
Et vous, Vanessa, quand on lit un peu votre bio, non, mais c'est une autre ambiance et en même temps, vous êtes là ensemble dans le même film, donc vous voyez bien que le chemin, peu importe. Vous théâtralisiez les histoires de Tintin, vous, à la maison.
Oui, enfin, mon père le faisait pour moi. J'étais vraiment trop petite pour m'en charger, mais oui, il m'endormait tous les matins.
Tous les matins. Tous les matins.
Avec qu'est-ce que vous faisiez la nuit?
Une enfance hyper difficile.
Bisous,
hein,
papa.
Non, toi, t'as grandi dans un univers avec de la culture à Besançon? Oh, c'est très 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 méchant.
C'est un des problèmes. Non, mais ah là là, celui-là, il va s'attirer les foudres de Besançon. Oui. Bah, mon père était très porté sur le théâtre. Je pense qu'il aurait aimé être acteur. Et très jeune, il m'a, donc très petite, il me lisait des BD en interprétant les personnages avec des voix différentes et tout ça. Et puis après, ça a été, il m'a lu des Molières, Shakespeare, Cyrano de Bergerac, assez jeune.
Et il y a le cinéma aussi que vous avez en partage avec
Max. Ma grand-mère avait deux cinémas à Besançon.
Je savais pas.
Mais voilà. Tu t'intéresses pas à moi, là.
C'est vrai. C'est vrai.
Jusqu'au bout, hein, comme dans le film. Hein.
C'est comme chat et chat. On s'adore.
Non, on passe des bons moments.
On passe des bons moments.
C'est cette phrase peut avoir tellement de sens.
Tant de sens. Différent.
Donc, forcément, les salles de cinéma, c'est familier.
Oui. J'étais tout le temps fourrée au cinéma.
Et premiers émois, vous, au cinéma, on a eu Terminator et le Grand Pardon. Pourquoi vous riez?
C'est
votre réponse.
Oui. Voilà. Ici, j'aurais préféré parler de Visconti parce que je sais très bien. Hein.
Mais non, Vanessa, vous, vos premiers éléments en matière de cinéma, vos premiers films comme ça qui vous ont touché et que vous revendiquez aujourd'hui comme le fait très courageusement Max Boublil.
Il faut être honnête. Hein.
Wow, ce soir, tous les juifs, ils pardonnent. Sauf un.
Il y en a eu tellement, mais j'ai un souvenir d'être allée voir petite La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Caro. Et je ne sais pas comment on s'était retrouvé gamin à aller voir ce film parce que c'est quand même pas... Enfin, on était vraiment petits pour le voir et j'étais la seule de mon gang à avoir aimé ce film. Ils étaient tous là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était horrible. Qu'est-ce que c'est que cet ovni et tout? Et moi, ça m'a vraiment. Je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est ça le cinéma. J'adorais ce côté complètement barge et cette image extrêmement léchée en même temps. J'ai vraiment adoré très jeune l'univers de Jeunet et Caro. Voilà.
Comme des garçons, Max Boublil, Vanessa Guide, ça sort après-demain, le 25 avril. Elle, vous avez pu l'applaudir évidemment dans Les Aventures de Gaston Laga, vous allez la retrouver, c'est Alison Wheeler.
Oui,
c'est après Raphaël, légende.
Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir, les gens s'endorment sous les gens se disent tout. Et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard, ne dorment plus du tout. Toi, tu n'es pas comme eux, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Les gens sont fous, ils regardent les étoiles et puis tirent en l'air à coups de revolver. Les gens se conduisent mal, ils achètent le journal, trouvent que le monde va mal, que tout est immoral. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux, toi. Tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié.
Jamais oublié. Plein de trucs.
C'était un petit commentaire de Vanessa Guide.
On va parler de Sarah Souko, qu'on en parle.
Oui, justement, on n'a pas parlé du casting de ce film Comme des garçons, et ça vaut vraiment le coup d'en parler. Au-delà de nos invités, on a parlé de Bruno Locher, il y a Carole Franck, Delphine Baril, Zoé Errant, Julie Moulier, Solène Rigaud, Sarah Souko, dont on parlait justement avec vous, Vanessa, qu'on a vu dans Joséphine Sarondi, qui est à l'affiche du prochain Jaoui Bakri, Mona Valravens et Luca Zingaretti, pour ne citer que dans ce casting de Comme des garçons en salle, dans Deux Dodos, en gros, c'est ça l'idée.
Absolument, dans Deux Dodos. Là, pas la peine d'attendre. Attention, j'ai assisté aux répétitions, je crois que je suis privilégié. Je vous demande d'accueillir Alison Wheeler.
Bonjour à tous. Ouais, je vous le dis, j'ai beaucoup de chance d'être en vie. Car j'ai failli me faire renverser ce matin par une connasse qui téléphonait au volant et ça m'a fait chier. Déjà parce qu'elle a pas dit pardon et surtout parce qu'elle avait un Samsung. Ça m'a dégoûté. Les gens ont aucun respect pour eux-mêmes. C'est dingue. Ouais, ça va trop loin en ce moment. Balek, je vais vous parler de sécurité routière.
Balek. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, on est au bout de l'écriture.
Oui, d'accord.
Car oui, chaque année.
Balek. C'est Balek.
Un peu de sérieux, si vous voulez.
Merci, Max. On avait compris.
Je peux dire balave.
J'ai pas compris. Moi, j'ai aucun second degré.
Balave. Chaque année. On va être un peu sérieux, plus de 3500 personnes perdent la vie sur les routes. 3500 personnes, imaginez, c'est énorme. C'est l'équivalent de Bercy, mais pendant un concert de Chaim. 3500, c'est beaucoup trop et je peux pas. Non, je peux pas rester là à rien faire et à être inerte comme un putain de bulot à marée basse. Non, j'ai envie d'agir. Il y a pas de raison que ces routes soient aussi dangereuses que mes courbes. Ouais. Parce que j'ai entendu ça dans une chanson de R&B, je trouve ça cool. Parce que c'est pas avec des autocollants bébés à bord qu'on va faire bouger les choses, non. Parce que les gens, pour que les gens se mettent vraiment à lever le pied, il faut leur faire peur avec des autocollants du genre Mathilde s'est mis à bord. Alors, je parlais.
Ouais, tu fonces.
Je parlais avec moi-même l'autre jour et je me demandais, mais meuf, comment faire pour sauver plus de vies? Bah, fais ce que tu sais faire de mieux, des pâtes au pesto. Mais non. De la musique. Merci d'applaudir les musiciens. Ouais. Et si on n'a pas.
Bravo.
Voici le code Larousseau. Balance ce son, Didier. Oh, tu vas conduire.
Ah oui.
Je sais. Oh, tu oublieras. Tu oublieras pas de boucler ta ceinture, car si t'as un accident, tu peux être projeté et paralysé dans le vide, et ta femme te quittera pour quelqu'un de valide. Tu oublieras pas t'arrêter pour les piétons, même s'ils traversent sans regarder, ils ont la priorité, même les nazis, même les cons, et même Nordal-Leland. Et tu oublieras le tuning taxi 4, les doigts d'honneur au radar, tous ces mots, ces injures, avant s'enculer de connard. Tu oublieras, tu oublieras, tous ensemble. Code Larousseau. Rest in peace, Jean-Jacques Larousseau. Oh yeah, yeah. You will forget. Attention. Skibidi bip doub dab doub di. Oh non, non, yeah. Tu oublieras tes soirées au vin blanc, les petits déj au Beaujolais, à dire monsieur l'agent, je vous jure j'ai pas bu une goutte, pour preuve je vous montre mes gougouttes. Puis tu perdras ton permis, tu seras obligé de prendre le métro, tu perdras ton taf à cause de la grève des cheminots. Tu oublieras Schumacher, Gran Turismo, les rodéos et la vitesse, juste pour impressionner la meuf du GPS. Elle est en voiture Simone, je m'appelle pas Simone. Tu oublieras ton smartphone, tes applis Facebook et Instagram. Tu veux pas que ton dernier selfie soit une duck face sur un platane. C'est trop aigu. Vaut mieux perdre des points d'audition que des points de permis. Sur le permis de la vie, t'as qu'un seul point. T'as qu'un seul. Oh yeah. Oh baby. Code Larousseau, Code Larousseau. You won't forget. Oh.
Allez, salut. Bravo.
La bande originale. magnifique. Mais bravo.
Je sors d'une grande dépression.
Mais Alison, quand est-ce que tu fais un album?
C'est vrai. C'est excessivement juste.
Elle est très très forte. Voilà,
j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de la référence à Jean-Jacques Larousseau.
Non.
France Inter quand même. Hein.
Ouais. Comme des garçons, on devrait demander à Alison Wheeler de faire le pitch du film en chantant. Je pense que ça serait la meilleure des promotions. Ce serait une super idée. Il faut qu'on y pense pour la prochaine fois. Donc, comme des garçons, à l'affiche dans Deux Dodos le 25 avril avec Max Boublil et Vanessa Guide. Ce film qui nous replonge dans la fin des années 60, début 70, où la première équipe féminine de football émerge, arrive sur un terrain devant le regard complètement ahuri des hommes qui imaginent bien sûr que, comme on l'a vu dans plein de documentaires, les femmes sont faites pour rester à la maison, dans la cuisine de préférence et non pas de porter un short pour aller sur un terrain et éventuellement taquiner le ballon. En gros, voilà pour le pitch de Comme des garçons.
Ces hommes qui sont tellement choqués de voir des filles en short. Max Boublil, Vanessa Guide, nous allons revenir sur votre bande originale, la vôtre. Attention, on commence en 2006-2006. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre pour chacun d'entre vous. Vanessa, c'est avec Justine Henman, votre prof de théâtre, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et à l'époque, vous écoutiez ça. Queen of the Stone Age,
oui,
Little Sister.
Un des meilleurs groupes de rock du monde.
Et on parlait de cuisine, et on y retourne, Vanessa, parce que c'est le nom de votre atelier de théâtre en 2006 à Paris, avec justement Justine Henman.
Moi, à la base, je voulais apprendre à faire des cupcakes, et puis je me suis retrouvée dans une école de théâtre, quoi.
Mince. Vous pensez avoir raté votre vie, quoi?
Bah oui, mais je pense qu'une reconversion est possible. Donc j'étais à la cuisine avec une prof.
C'est un cours de théâtre, donc, reconnu.
À l'époque, il y avait des cours pro, qu'elle ne fait plus maintenant, malheureusement, mais c'était une vraie rencontre avec Justine. Oui, j'ai fait presque 3 ans de cours avec elle. Et comme j'étais une éternelle étudiante qui voulait jamais se lancer, c'est beaucoup plus pratique de se planquer à la fac ou en cours de théâtre. Elle m'a dit, non Vanessa, je ne te reprends pas une quatrième année. Là, il faut que tu te lances, tu pourras toujours faire des stages, des choses pour te perfectionner. Mais à un moment, il faut se confronter au monde du travail.
Donc après avoir fait quelques publicités, vous commencez sur les planches avec Justine, justement, dans la pièce Rose Bonbon. Ouais. Et c'est elle qui vous pousse sur les planches.
Oui, absolument. Elle a été très importante pour moi. J'ai joué 3 ans au théâtre cette pièce grâce à elle. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. J'ai été dans un téléfilm réalisé par sa maman, Caroline Huppert. Et on est encore très proches aujourd'hui avec Justine. Je suis même la marraine de son fils. Donc c'est vraiment une très belle rencontre.
Une histoire aussi d'amitié finalement, mais c'est quand même elle qui a amorcé le mouvement.
Ouais, absolument.
Sans quoi vous seriez peut-être...
Je serais encore à la fac, je pense.
19e année. Quel CV. Et vous, à la même époque, Max Boublil, vous écoutiez ça.
On aurait pu être potes à l'époque.
À l'époque.
On se croisait à l'époque dans les soirées.
Ouais, en sabotage.
Ouais. Les Strokes avec Reptilia. Et vous aussi, c'est une rencontre avec Anthony Marciano.
Oui, tout à fait. Ah, il faut que j'en parle.
Il faut le présenter, c'est
Anthony Marciano, c'est...
cofondateur de My Major Company.
Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça aussi. C'est le réalisateur des gamins. C'est avec lui que j'ai écrit mon premier spectacle. Avec lui que j'ai écrit toutes mes chansons un petit peu potage pour Internet. Et c'est vrai que c'est... en fait, c'était mon cousin Germain était très copain avec son petit frère et on s'est rencontrés comme ça un soir chez mon oncle. Et on ne s'est pas lâché depuis. Lui, il était dans la musique, il était directeur artistique d'une maison de disques. Moi, j'étais acteur au chômage et on s'est dit... moi, j'ai dit, je veux faire un one-man show. Il m'a dit, ok, on commence à écrire tous les deux. Et puis maintenant, c'est devenu un réalisateur confirmé et voilà, c'est super.
Et avant ça, il y avait quoi ?
Avant ça, il y avait... moi, j'ai passé quelques années à faire des téléfilms et des pubs. Et voilà, je faisais des pubs pour tout, des téléfilms. Et puis, j'ai commencé très jeune, en 99. J'ai tout de suite vite tourné. Je faisais un peu jeune dans tous les trucs. Et après, ça s'est un peu arrêté. J'ai commencé à écrire mon one-man show.
Et alors, pour donner un petit exemple de ces chansons de Max Boublil dont on a parlé, vous préférez quoi ? Ce soir, J'aime les moches ou...
Ce soir, tu vas prendre. Moi, j'ai l'impression que c'est notre plus réussi.
C'est un classique.
Alors,
c'est
le classique.
C'est un gold, comme on dit.
Alors, on y va. Oh, ce soir, tu vas prendre. Tu vas prendre.
comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion.
Fred Sigrist connaît par cœur là.
Pas par cœur, mais je la connais bien. Bah attends, c'était culte.
Mais Fred a un côté féministe.
C'est ce qui a lancé vraiment.
C'est la première chanson qu'on a écrite. C'est incroyable parce que on était personne, on enregistrait dans un petit studio d'une cave. On a eu l'idée de cette chanson en 2006 et c'est la première chanson que j'ai jamais chantée de ma vie et la première idée que j'ai eue, on l'a mise sur internet, c'était les débuts de Dailymotion et tout ça.
Ouais,
c'est devenu un truc énorme. En une semaine, j'ai été invité de toutes les émissions assez incroyable en fait.
Et votre point commun à tous les deux, c'est le Grand Journal aussi?
Moi je pense que j'ai fait le plus court passage au Grand Journal du monde. Je suis arrivé, je me suis pris deux bides, j'ai fait bon je vais y aller.
On a même ça en commun tous les trois avec Alison.
Oui, tout à fait. C'est que des gens qui ont réussi.
Team Grand Journal.
Ouais, moi je me suis pris des vrais bons bides au Grand Journal. C'était incroyable. Un jour j'ai fait une chanson qui était soi-disant humoristique devant Vanessa Paradis, qui était l'invitée du Grand Journal, et à la fin personne n'a ri, personne n'a compris que c'était une chanson humoristique. Oui. Et à la fin elle a dit je soutiens les jeunes artistes qui galèrent comme elle. Elle avait même pas compris que c'était une chanson à caractère humour. Voilà, je me suis dit je vais rentrer chez ma mère.
Petite solitude.
Hein. Ouais.
Justement, Canal, c'est les années 2014 et vous écoutiez Sarah Urquinaona. Ça, c'est votre choix.
Ça se dit Sarah.
Sarah, ok, j'ai mis un trop.
Je connais pas. C'est bien.
C'est mon ex.
Non. José. Ah, elle s'est tapée tout sur lui.
Et là, vous êtes Vanessa avec Monsieur Poulpe.
Oui, avec Monsieur Poulpe National, bien sûr. Et Sar, c'est un groupe qui est avec juste, c'est un binôme en fait, avec DJ Pone et José Reyes Fontao, qui est accessoirement le chanteur de Stuck in the Sound.
Voilà,
je resitue les choses. Et cet album est vraiment sublime. Ouais. Vous pouvez l'écouter. Il était d'ailleurs playlisté France Inter.
Donc on revient à cette année 2014. Vanessa, vous êtes avec Monsieur Poulpe, donc
pas dans la vie. Hein.
Non, mais en tout cas du lundi au jeudi à l'époque, dans un programme court, le rappel des titres dans l'émission Le Before du Grand Journal, sur Canal. Et là, tout d'un coup, c'est 5 minutes où vous êtes dans une lâcher prise absolue. J'imagine une trouille, non, aussi?
Ouais, c'est la plus grande trouille qu'on puisse avoir en tant qu'acteur, le direct à la télé, où on te dit, à l'époque, il y avait encore 1 million, ou parfois 2 millions de téléspectateurs.
La belle époque.
Oui. On te dit, no pressure, mais sache qu'il y a 1 million de personnes qui vont te voir te planter si tu te plantes. Donc c'était très très formateur.
C'était très solidaire à cette époque. Hein.
Ouais.
J'avais un sentiment de waouh, les gens sont derrière toi. Hein.
Ah ouais?
Ouais.
Moi je me souviens, on peut parler d'un truc télé.
Ouais.
Tu te souviens des. Toi t'as pas pris beaucoup de bides. Mais,
ça m'est arrivé.
Moi pas tant que ça. Toi t'as fait une belle
réussite. Je m'en souviens pas. C'est
mais c'est incroyable.
Là, d'arriver sur Inter.
Le bide est silencieux, c'est-à-dire les gens. Tu te souviens ou pas de ça? Moi je me souviens, tu te prends un bide et tu sors, tu sais pas en fait. Et les gens.
Mais les gens regardent.
Tu sens
terre.
Dans le regard qu'ils tournent le regard.
Oui, c'est comme une espèce de maladie.
Et on te pousse doucement vers la sortie, ça va peut-être vous arriver à la radio.
Nous aussi c'est comme ça.
Mais c'est très très insidieux en fait. Rien n'est dit.
Et ce qui est formidable, c'est quand après il y a un repas. Tout le monde parle et que toi t'es tout seul devant ton assiette et dis ah, il y a dû se passer un truc.
On va ouvrir un groupe de parole, Fred. Je te le promets.
J'ai plein de noms à te soumettre.
Tu as raison, Léla, elle a grand besoin en ce moment, j'ai l'impression, Fred.
C'est ça, faut que tu parles.
Vous, Max, en 2014, c'était ça.
Tous debout.
Ou pas.
Non. Vous écoutiez Énergie.
Rihanna, Diamonds.
La chanson de fin de votre spectacle.
Ah, c'est plus 2011-2012, ouais. C'est la fin du spectacle que j'avais, mon spectacle en sketch et en chanson. Et c'est vrai que c'était cool parce que c'est vraiment un spectacle qui marchait très fort et je me souviens, c'était un peu spécial, ouais.
Et vous racontiez ce que c'était d'être une star sur internet, c'est-à-dire une star qui a pas d'argent, quoi.
Exactement. exactement, c'était ça. Et je me souviens, non, mais ce spectacle marchait très fort et les salles étaient vraiment très très pleines et vraiment de vrais fans et tout, et c'était assez incroyable, ouais. C'était drôle. Tout marchait bien et j'étais très très heureux.
Et la scène.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, la scène.
Non, non, rien ne s'est passé. Non, non, mais ça fait.
Il y a eu cet accident de tracteur.
Malheureusement.
Ce
pied gauche qui m'a trahi.
Saleté de pied gauche.
Voilà, un jour.
Ce rapport à la scène, ça a l'air d'être pour vous, mais comme beaucoup de jeunes hommes qui ont le même itinéraire que vous, qui ont fait de la scène, du cinéma, de la télé, c'est un peu le Graal, quoi. C'est un peu l'état de grâce absolue, la scène.
Ouais. Parce que tout d'un coup, t'as été des salles de gens qui t'aiment et je me souviens que c'était. Ça faisait du bien. Après, c'est un truc d'ego, mais tout d'un coup, tout marche, tout ce que tu dis, les gens applaudissent, rient et c'est très agréable.
Mais les gens t'aiment encore?
Oui, non, mais c'est gentil,
merci.
Non, non, mais c'est-à-dire que maintenant, je fais plus de scène.
Oui,
vraiment et tout, et c'était une période où c'était beaucoup de teenagers dans la salle et tout ça.
Il y a un retour à la scène qui est possible.
Oui, c'est possible, mais ça sera plus pareil parce que ça sera plus parce que j'ai vieilli, parce que j'ai une vie de famille, parce que voilà, c'est plus un truc teenager comme il y avait à l'époque et c'était voilà, tout simplement.
Allez, l'année suivante, 2015
l'accident,
pour vous.
Vanessa,
bêtement, c'est ça 2015.
C'est pas 2015 ça.
On non, écoute, mais je l'ai écouté en 2015.
C'est 2007.
C'est arrivé à Besançon
en 2015.
Non,
il
non,
paraît qu'il vient de sortir Titanic.
Non, en fait, cette chanson, c'était notre hymne sur Aladdin. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Audrey Lamy qui a remis cette chanson au bout du jour. Et c'était vraiment la chanson qu'on écoutait tous les soirs en rentrant de tournage. Autant sur le 2 que j'ai tourné cet été, c'était MHD, la puissance. Jamel Debbouze nous passait ça tous les matins pour nous motiver. Autant sur le 1, voilà, c'était la boulette de Diams. Et ça fait plaisir de faire un petit clin d'œil à ma Audrey Lamy. Bisous.
Les nouvelles aventures d'Aladdin d'Arthur Benzaken avec Kev Adams, notamment, ou encore Eric. Judor, qui faisait
Jean-Paul
partie Roux, du casting.
William Lebguil, Michel Blanc.
C'est un peu la belle époque, comme Astérix et Cléopâtre, où tout d'un coup on réunit comme ça beaucoup, beaucoup de comédiens très connus pour un film assez fou, un film en costume. Donc le deuxième est tourné depuis cet été, c'est ça l'idée?
Oui, il sort en octobre, début octobre.
Bon, on poursuit avec vous, Max Boublil.
Cinéma toujours, c'est Robin Desbois pour vous, et vous écoutiez.
Ça non plus, c'est pas 2015.
Ah non, mais...
Attends, je sens la mauvaise foi qui arrive, là, regarde.
Il est où le problème, Max Boublil?
Je trouve que mes choix, quand même, ils sont musicaux, ils sont meilleurs que ceux de Vanessa Guy. Pardon, hein, je trouve ça plus cool.
Ouais, mais elle joue mieux au foot.
Oui, c'est vrai.
C'est Robin Desbois, à cette époque-là, d'Anthony Marciano, et vous êtes scénariste du film, donc là, vous mettez aussi... la main.
Les gamins aussi, je l'avais coécrit, la main à la pâte.
Non, dans le cambouis. Voilà.
Oui, Robin Desbois, c'était curieux pour nous parce que c'est pas un bon souvenir pour moi parce que c'est un film qui a pas marché comme on voulait. Qui a eu de très 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 mauvaises critiques et que les gens n'ont pas reçu. On était sortis des gamins qui avaient eu des très bonnes critiques et que les gens avaient super bien reçu. Et ce Robin Desbois un peu potache tout n'avait parlé à personne.
C'était un Robin Desbois qui était un sale type en fait. Lui, au lieu de voler les riches, il volait les pauvres.
Voilà, c'était une idée qu'on avait eue comme ça. Moi, je trouvais que c'était une idée excellente.
Sur le papier, c'était compliqué. Hein.
Ouais, en fait, c'était très compliqué, très très compliqué. Qui voulait ouvrir un bar à putes à Sherwood, tout ça. Et nous, on trouvait ça très très drôle.
C'est un peu une niche. Hein.
C'était vraiment une niche. Ouais. Apparemment, qu'on n'a pas touché non plus.
C'est une sorte de préquel quoi, avant que Robin devienne un héros.
Et c'est vraiment les critiques ont été très 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 mauvaise et c'était pas un super moment.
Et ben un super moment, c'est comme des garçons, cette comédie.
Exactement.
Qui est en salle mercredi, donc le 25 avril.
Deux dodos,
un film de Julien Allard qui nous plonge dans cette histoire de ces femmes qui tout d'un coup prennent, j'allais dire la pelouse.
Le pouvoir.
Ces femmes qui prennent la pelouse. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour un
garçon maudit?
Ça va aller, la première équipe de football féminine, et heureusement, on est bien loin de ça aujourd'hui, même s'il y a pas mal de chemin à faire. Et avec nous pour en parler, Laure Boulot. Bonjour Laure.
Bonjour. Une vraie joueuse.
Et
salut Laure.
Une vraie joueuse, puisque Laure, vous évoluez au PSG, vous êtes arrière latérale gauche, vous avez été sélectionnée à plus de 65 reprises, je crois, au sein de l'équipe de France. Vous avez disputé, attention messieurs, deux Coupes du Monde en 2011 et en 2015, les JO en 2012 à Londres. Voilà, là on a une grande championne. Ouais, absolument. Là en ce moment, je crois que vous êtes un peu blessée.
J'ai eu une petite entorse, oui, il y a une dizaine de jours, mais
donc
ça se remet bien.
Qui vous a fait ça?
Balancer des noms.
Une adversaire pas très bien intentionnée.
Et comment on se venge de ça?
Ben on se venge pas, c'est le jeu.
C'est terrible.
Hélas,
bah, voilà. T'as pas vu Tonya?
Elle a été sanctionnée, peut-être. Non, elle a été
un
sanctionnée.
Un petit carton, quoi.
Un petit carton. Mmh. Oui, voilà. Ça fait pas lourd par rapport à une entorse. Je comprends.
M'en charge.
Mais revenons au foot. Oui, voilà, c'est ça. On va envoyer Alison Wheeler. Revenons au foot, un milieu que vous connaissez bien puisque vous évoluez en plein dedans. Est-ce que vous connaissiez déjà cette histoire de cette première, la formation de cette première équipe de foot?
Non, je la connaissais pas et du coup c'est vrai que bah ça m'a permis aussi de voir un peu l'histoire de mon sport et j'ai beaucoup aimé ça dans le film. Au-delà d'avoir bien rigolé et d'avoir passé un bon moment, j'ai appris des choses et ça m'a plu.
Alors comment est-ce que vous parleriez de cet univers? Déjà vous avez commencé le foot comment? Parce que vous êtes toute jeune, à votre âge c'était donc possible que les filles fassent partie d'une équipe. Est-ce que c'était déjà un peu encore regardé de travers?
Bah aujourd'hui j'ai quand même 31 ans, j'ai commencé
toute jeune.
C'est super jeune.
Ans,
je suis
une vieille.
C'est hyper jeune.
Alors peut-être pour. Vieille, hein.
Non, je suis sincère.
J'ai commencé il y a une vingtaine d'années et il y a une vingtaine d'années, c'était pas du tout comme aujourd'hui. J'ai commencé plutôt à l'école, j'étais un peu garçon manqué et je jouais dans la cour. Un surveillant était entraîneur, il m'a repéré, enfin j'ai eu un facteur chance quand même. Et puis après j'ai pu intégrer une équipe mais avec des garçons dans un premier temps mais j'étais la seule fille.
Ouais. Et vos parents regardaient ça d'un bon œil. Là dans le film on voit que les pères sont pas forcément toujours favorables à ce que les filles, même si c'est pour reproduire un peu le schéma familial, se lancent dans le football. Vous c'était plutôt perçu à faire de la danse ou quelque chose de entre guillemets féminin comme on en avait girlie. Un peu la référence à l'époque?
Non,
ou
pas
encore aujourd'hui?
Non, j'ai un super papa donc il m'a toujours suivi et il est très sport. Ma mère c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai deux grands frères, donc elle attendait d'avoir une fille un peu, un peu danseuse, couette, ultra élégante. Et je me suis mis à rentrer avec de la boue et des protèges tibias, c'était pas trop le kiff. Donc,
Il n'y a pas un des deux frères qui aime bien la danse?
et à partir de quand en fait vous avez commencé à jouer avec des filles? Parce que pendant au départ vous étiez avec des garçons, c'est quoi le rapport avec les garçons tout d'un coup? Parce que quand on est la seule fille dans une équipe de garçons, c'est compliqué, non?
Bah en fait c'était génial. Donc bizarrement, c'est même pas bizarre, c'est même quand on en parle avec les filles qui ont commencé avec les garçons, c'est quasiment les, je dirais pas les meilleures années, mais c'est on est un peu la protégée du vestiaire, du clan, entre guillemets, du clan. Et en fait les hommes c'est particulier, mais au début on a du mal à s'intégrer, il faut montrer un peu nos qualités, mais une fois qu'on est intégré, c'est limite beaucoup plus simple que dans un milieu uniquement féminin où après on va se tirer un petit peu...
Dans les pattes?
Dans les pattes, ouais. Vive les filles.
Et quand est-ce que vous avez décidé d'en faire votre métier? Vous vous êtes dit, voilà, c'est impossible, c'est possible de faire de ma passion mon métier. C'est un champ des possibles pour vous?
Bah en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout ce côté où on pouvait devenir professionnel.
Trop,
Donc c'était uniquement par passion. J'ai intégré Clairefontaine, le centre de formation, j'ai fait mes études. Et je sais pas, je pense que Lyon a créé une équipe un peu professionnelle avec Jean-Michel Aulas qui a pas mal misé sur les filles. C'est arrivé au PSG et là je suis passée professionnelle, mais c'était il y a 6-7 ans quoi, donc c'est très récent en fait pour moi.
Ça veut dire que toutes les filles du championnat sont des pros et elles ne font que ça, ou alors elles ont un métier en parallèle comme c'était il y a encore pas longtemps le cas des rugbyman qui n'étaient pas tous pros quand c'était pas encore très professionnel. Ouais.
La majorité des filles aujourd'hui elles sont pas professionnelles.
Ah,
il y a le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, Montpellier et Paris FC qui sont quatre équipes qui sortent un peu du lot dans le championnat français, mais il y a beaucoup de filles qui travaillent encore et qui sont amateurs. Et ces inégalités, il faut qu'on arrive petit à petit à les gommer. On a une évolution un petit peu à deux vitesses. Donc,
de toute façon, ce qui va les gommer, ça va être l'arrivée de l'argent dans le foot féminin.
L'arrivée de l'argent a changé déjà pas mal de choses dans certaines équipes, mais il n'arrive pas encore partout. Ouais.
Partout, et Guingamp, les filles de Guingamp se sont mis en grève récemment parce qu'elles dénonçaient un manque de moyens. Est-ce que c'était aussi des revendications financières par rapport à un salaire ou du matériel, des infrastructures? Qu'est-ce qui vous semble être le plus manquant en ce moment dans le foot féminin?
Oui, mais déjà les infrastructures, les moyens, ça conditionne un peu tout, quoi. Ces filles-là, je les connais bien et des fois elles ont des déplacements, elles mettent 12 heures de bus aujourd'hui, c'est quand même plus possible. nous, on a joué Rodez il y a un peu plus d'une semaine et elles sont venues en minibus. Elles ont mis, je crois, 8 heures. Elles sont arrivées, elles étaient complètement fatiguées. Il y a des filles d'Albi.
Mais ça tombait pas sur le jour de grève, justement? Peut-être juste ça. Hein.
Non, c'était un peu de chance. Non, c'était volontaire, ces minibus, pour resserrer les liens. Et c'est compliqué. Il y a Albi, elles n'ont pas forcément l'éclairage. En fait, des fois, c'est de voir cette différence.
Pas l'éclairage sur le terrain.
Par exemple, elles s'entraînent, ouais, il y a
un...
Ouais, il y a un éclairage qui... Ouais. Elles mettent quelques bougies autour. Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux en rigoler. Mais nous, quand on voit nos conditions, c'est vrai qu'on se sent complètement privilégié. Même si j'ai travaillé toute ma vie pour connaître ça aujourd'hui.
Ouais.
Mais quand je vois les filles qui s'accrochent pour, dans des clubs où c'est moins facile, je les admire aussi.
Et la médiatisation du foot féminin, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est encore trop rare? Il y a quelques chaînes, je crois France 4 avait diffusé des matchs. même chose sur France 2, je crois. Est-ce que c'est encore... c'est ce qui va permettre d'émerger sincèrement?
Ouais, je pense que il y a tout un cercle vertueux, on va dire économique à trouver, et les médias peuvent nous aider. On l'a vu après la Coupe du Monde en Allemagne en 2011, on est arrivé après une Coupe du Monde un peu ratée des garçons, et on a fait une super Coupe du Monde. Et là, ça a été
et le public a suivi.
Et là, c'était un peu le coup de cœur du public et des Français, et ça nous a mis en avant, et ça a tout changé. À partir de ce moment-là, ma vie, moi, elle a changé.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé pour vous alors?
Eh ben, je suis devenue. Je pense que c'est ça qui a lancé un petit peu cette dynamique pour le football féminin. Donc, je suis devenue professionnelle.
Vous en vivez?
J'en vis aujourd'hui.
Et vous en vivez bien, sans rentrer dans les détails?
Oui, je vis par rapport à un Français, vis très très bien. Après, par rapport au football masculin, c'est pas du tout comparable. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être encore comme un garçon qui fait du foot. On va pas se construire en quelques années. Je pense qu'il y a des étapes à respecter et j'espère à terme qu'on arrivera à avoir une médiatisation et des moyens aussi puissants que dans le foot masculin.
Et vous pensez déjà à la suite, parce que vous, même si vous êtes toute jeune, vous avez dit pourtant que vous étiez vieille sans doute dans le milieu sportif. C'est quoi la suite? Est-ce que vous envisagez aussi une suite comme les footballeurs masculins, c'est-à-dire souvent commentateurs, soit cadre dirigeant dans une équipe, entraîneur? On voit l'exemple assez brillant de Zidane.
En fait, je prépare la suite, j'y pense beaucoup, surtout en ce moment, avec mon vieil âge.
Vous avez réservé pour un EHPAD ou pas encore?
Pas encore. Et non, j'ai déjà un petit peu commencé dans les médias.
À commenter, à
être consultante aussi, ça me plaît bien. J'ai pas non plus envie de faire que ça,
ouais.
Mais ça me plaît bien aussi de mettre des nanas qu'on fait du foot dans des émissions de football. Ça, je trouve qu'il faut
plus
amener
ça. Plus que des présentatrices qui n'en ont jamais fait, c'est ça?
Par exemple, je dis pas qu'elles n'y connaissent rien, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de présence.
Et le chemin, l'itinéraire de Corinne Diacre, qui entraîne l'équipe de France et qui a été sur le banc de l'équipe de Clermont, ça vous inspire, ça fait bouger les lignes aussi, de se dire que on n'est pas forcément une femme qui encadre des femmes, qu'on peut on peut bouger, et que c'est le foot en général. Finalement, les compétences sont les mêmes.
Ouais, c'est clair qu'elle avait complètement bouleversé les codes, une femme qui entraîne des hommes.
Ouais.
Quand on avait appris cette nouvelle, en plus j'ai joué avec elle quand elle était en train d'arrêter, j'arrivais en équipe de France, et donc du coup je la connais bien, et c'est vrai que de la voir entraîner un groupe de garçons, c'était mais révolutionnaire, et ça a fait vraiment bouger les choses. Aujourd'hui elle est retournée chez les filles, mais ça a marqué, je pense, l'histoire, en tout cas des femmes dans le sport, enfin dans le football.
La prochaine fois qu'on vous voit sur un terrain, alors, c'est quand et c'est contre qui? Est-ce que vous savez déjà quand vous allez reprendre la compétition?
Je pense que c'est le prochain match en Coupe de France contre Saint-Etienne.
Parce que là, on rappelle que vous êtes blessé, quasiment mutilé après un tacle assassin sur la cheville, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Avec un très beau switch, je le souligne, Parc des Princesses, pour montrer qu'on ne cherche pas forcément à égaler les hommes, on reste une femme néanmoins tout en pratiquant le football, ça c'est important. Merci beaucoup à vous, Laure Boulot.
Merci.
Je voulais rappeler une petite réflexion que quelqu'un a dit en 1925, c'est que les jeunes filles fassent du sport entre elles dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public. Oui, d'accord, mais qu'elles se donnent en spectacle, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. C'était monsieur Henri Desgranges qui disait ça en 1925.
Un visionnaire.
Et il s'y connaissait, le garçon, puisque c'était un cycliste.
C'était ton grand-père.
Voilà, c'était un cycliste, le gars. Voilà.
C'était ton grand-père, en gros. C'est ça l'histoire.
J'aurais adoré.
Oui. On aurait adoré, nous aussi, penses-tu. Forcément, ça fait plaisir.
En deuxième heure, Tanguy Pastureau sera là pour, évidemment, refaire l'info. Bonjour. Et la maltraiter. Tanguy, vous savez quoi? J'aimerais pêcher avec vous de gros merlus en plein Atlantique.
Oui, je comprends, Daniel, c'est votre envie de Finistère qui parle, parce que ce département a tout pour lui. Des vagues, du vent, des bretons, des haleines de bretons dispersées par le vent. Il y a moins d'un mois, une société de management a même évalué la valeur monétaire du Finistère, 684 milliards d'euros. Ça fait cher de la mouette.
N'empêche que j'aimerais bien aller avec vous pêcher. Allons-y. Des gros merlus dans l'Atlantique. Comme des garçons, nous sommes avec Vanessa Guide et avec Max Boublil. C'est le film qui sortira dans deux dodos, c'est bien ça, le 25 ça. Avril. Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de la bande originale juste après les infos. Retour de la bande originale, attention de bande originale, ça on a guillemets avec Albert Elgouf, Frédéric Sigrist, Alison Wheeler. Dans quelques instants, Tanguy Pastureau, et Léla Cadeau,
oui,
Rebou Nadine.
Oui, Daniel Morin, et nos invités sont toujours Vanessa Guide et Max Boublil.
Bravo,
bravo.
Ah, ils sont super.
Qui viennent nous présenter comme des garçons un film en salle dès mercredi avec un superbe casting, une comédie de Julien Allard qui prend un fait réel, la formation de la première équipe de foot féminine à Reims dans les années 69-70 et qui nous transforme cette histoire-là en une belle fresque humoristique. Et pas que, parce que c'est pas simplement une comédie où on rit toutes les 5 minutes, c'est simplement voilà cet itinéraire de ce journaliste que vous incarnez, Max Boublil, un journaliste un peu macho, un peu arrière-garde, on va dire, en termes de mentalité, qui se voit puni par le directeur de la publication, chargé donc d'organiser une kermesse. Et pour ce faire, il a comme acolyte votre personnage, Vanessa Guide, une secrétaire très appliquée, parfaite à tous les égards, qui va s'avérer être une attaquante de génie ballon au pied. Et enfin, on visite ainsi comme ça l'histoire de la femme au sein de notre pays, et c'est pas si vieux se dire que voilà, elle ne pouvait pas faire exactement ce qu'elle voulait et les imaginer en short sur un terrain avec un petit t-shirt un peu moulant, parce
un peu
que
moulant
un peu
quand
les...
même, hein. Ah, c'était, un peu provoque.
Les garçons aussi avaient des t-shirts un peu moulants, remarqués à l'époque.
Oui.
C'était assez près du corps.
Personne ne disait rien.
Près du corps, c'était un peu la mode.
Après, eux, ils le font vraiment au début. Ils le font. Ils veulent vraiment ramener des mecs pour regarder des filles jouer en short, quoi. C'était d'ailleurs le MLF est trouvais que c'était une activité qui désapprouvait complètement, parce que c'était pour enrichir dans un espèce de sport graveleux les hommes. C'est fou de se dire que la MLF était contre ça.
Oui,
parce contre ces filles, quoi.
Il n'y avait pas forcément relu ou bien compris le message, avec quand même un cri de guerre assez drôle pour cette équipe féminine. Vanessa Guide, je vous laisse nous le raconter, nous le prononcer.
Crampons nichon.
Ça, vous l'avez inventé après. Ça, c'est pas le cri originel.
C'était déjà dans le scénario.
Ah bon? Absolument. Oui, mais je crois que ça a été inventé par Fanny Droit, la scénariste.
Oui,
c'était pas un vrai truc.
C'était pas la vraie
ça.
Histoire.
Ah oui, non, oui, non, c'était, non. Mais c'était. De, ouais. Oui, c'est pas nous, les joueuses du film, qui l'avons trouvé.
Mais elles auraient pu le.
Ça correspondait complètement avec cette équipe féminine: Carole Franck, Delphine Baril, Zoé Héran, Julie Moulier, Solène Rigaud, Sarah Zucco, Mona Valravins, qui incarnent chacune d'entre elles un type au sein de cette équipe, l'hyper féminine, celle qui veut en découdre à tout prix, la mère de famille, celle qui se demande comment occuper ses fins de journée avec un mari complètement fan qui la suit absolument partout. Ça, c'est un personnage qui est très très attachant.
Oui. Un film sociétal. Et
un peu militant aussi quand même.
Complètement.
Un peu militant.
Lui aussi, il est militant et il maltraite l'info. C'est Tanguy Pastureau.
Oui.
Tanguy. Répondez-moi.
Non, Daniel.
Vous savez, j'adore le Finistère. Ses embruns, ses mouettes, ses bulots.
Je sais, Daniel. D'ailleurs, vous y seriez très bien avec votre barbe grise et votre air bougon. Vous feriez un parfait capitaine un peu rustre qui parlerait comme à des chiens à ses mousses soumis en les honorant par derrière à l'aide de deux bâtonnets de Colin surgelés. Donc, en réalité, je vous vois en capitaine breton, mais dans un Marc Dorcel gay. Mettons ça sur le dos du printemps. Ça nous évitera à tous les deux de nous poser des questions sur notre relation. Alors, le Finistère, c'est le 2-9, comme diraient les Caïras de Quimper, s'il y avait des Caïras à Quimper. Ce département de la pointe pointe de la Bretagne, région qui nous a donné Jean-Yves Le Drian, Christophe Miossec, mais aussi des gens qui sourient, comme Enora Malagré, née à Morlaix. Alors moi-même, qui ne suis rien par rapport à ces illustres, eh bien j'ai fait mes années de collège à Rosporden, une petite ville dont la principale attraction touristique est... J'ai grandi dans un rêve d'identitaire français, ah, parce que dans tout le collège, il n'y avait pas un arabe. Quand est arrivée la Zoubida de Vincent Lagaffe, personne n'a compris de quoi ça parlait. Mais on dansait quand même dessus, puisqu'on était ivre. Hein, si un type venait du Morbihan, on l'appelait le métèque. Alors mes premières années se sont donc déroulées sous la pluie. À 13 ans, mon corps était constitué à 50% de mycose. Le soir, ma mère me faisait sécher, puis pour me laver, me grattait avec une râpe à fromage. Bref, je n'ai que de bons souvenirs du Finistère. D'Anne Legrand, de l'école Émile Zola de Quimper, en passant par Françoise Brigand, du collège Pensivi à Rosporden, mais aussi des souvenirs non liés au sexe féminin, comme ce jour d'août 87 où il avait fait beau. Et le Finistère, ça ne vaut pas cher que dans mon cerveau usé par l'écriture de ces chroniques qui te ravissent, auditeur de France Inter, mon gros bichon. Non, ça vaut cher tout court. Une société, Goodwill Management, qui, comme son nom l'indique, est de Paris, eh bien, a calculé il y a 3 semaines la valeur du Finistère d'après sa richesse matérielle et immatériel. Alors exemple, ils ont regardé le niveau d'éducation des gens. Dans le Finistère, il est très haut, ce sont des têtes. Dès la naissance, il maîtrise plus de mots que Cédric Villani, le député LaREM, qui se sape comme dans les clips de Cure, où Robert Smith avait l'air d'avoir le moins la patate. Ils ont analysé la santé des gens, le Finistérien est robuste. Ainsi, Laurie Tillman, notre ex-Miss France de Brest, qui a 160 dents, peut enquiller 12 shootings photos en bikini, alors que moi, un selfie, je suis déjà crevé. C'est-à-dire que je suis fatigué, puis je vois ma tête sur le selfie et je suis encore plus fatigué. Mais ils ont aussi étudié la variété des paysages. Or, dans le Finistère, il y a tout. La mer, la campagne, même la haute montagne si vous prenez des drogues.
Alors, à quelle somme a été évalué le Finistère, Tanguy ?
Eh bien, Leïla, tenez-vous bien, ça vous intéresse, à 684 milliards d'euros. C'est énorme. C'est ce qu'a dépensé Amélie Nothomb en fond de teint Perfect Blanc de 2014 à aujourd'hui. La valeur du Finistère dépasse celle de la capitalisation boursière d'Apple, la marque qui sort tous les ans le même téléphone qu'on continue à acheter parce qu'on est un peu con. C'est-à-dire qu'Olivier de Kersauzon en train de gerber sur un crabe mort dans le porc de cabaret, potentiellement, ça vaut plus que l'iPhone 10, alors qu'il est équipé des mêmes fonctions, hein, Kersauzon. Comme Siri, il vous parle, hein, il vous dit « ça te dirait de t'en jeter un petit derrière la cravate » et on peut l'éteindre, hein, il suffit de lui dire que le bar est fermé. Le Finistère vaut 684 millions d'euros, or la dette publique de la France est de 2200 milliards. Donc si on vend le Finistère aux Chinois, on en rembourse le tiers. Pour 200 millions de plus, on leur laisse Yann Tiersen, qui est brestois. Il a fait la musique d'Amélie Poulain, le Paris tout beau qui sent pas le pipi que Solan Hidalgo vit dans sa berline de luxe. Les Chinois le kiffent, ils l'achètent et le reste de la France repart sur de bonnes bases. D'autant que si on retire de la carte météo la pointe de la Bretagne, Evelyne Delia aura plus de place pour venir se coller à côté de la carte de France. Elle va pouvoir s'alimenter et prendre un peu du cul. Hein, parce que là, elle fait pitié sur l'échelle de Kim Kardashian qui va de 1 à 10 000 et est à moins 4. Alors bien sûr, certains grincheux des gauchistes diront « Ouais, par la grosse barbe du hipster de Karl Marx, c'est quoi ce délire de tout monétiser ? Le Finistère, c'est avant tout l'odeur de l'océan, le caramel au beurre salé, les bottes humides et les bigoudens sèches. Ça ne se quantifie pas. » Et c'est vrai. Enfin, dans ce cas, on pourrait tout traduire en euros. La Corée du Nord, 1000 euros, à cause de Kim Jong-un, qui visuellement rappelle trop le jardin de Mémé Viviane quand on vient de le tondre. La Corrèze, 55 euros, parce que c'est là que vit Hollande, le procrastinateur de la 5ème République, qui oublie son échec en s'enivrant de gnôl local. Il n'y en a pas, donc il est obligé de la produire lui-même. Un jour, Macron, notre trader fou sous stéroïdes, nous dira « J'ai calculé, Radio France vaut 42 millions, faut faire passer le tout à 140 euros. » Donc, on ferme la cantine, on retire Daniel Morin qui prend une blinde, on branche sur la régie Spotify, faisant tourner en boucle Juliette Armanet et Eddie Depreto, et c'est OK. Hein, mais cette manie actuelle de tout traduire en flouze nous fait oublier, Leïla, que les meilleures choses sont gratuites. L'amour, le vent, le sable, les 10 de rock voisine dans le bac à solde. Nos souvenirs, celui de l'école Émile Zola de Quimper, d'une fraise de Plougastel dégustée nue devant un feu de bois. Le Finistère n'est pas à vendre, donc c'était pas la peine d'y mettre un prix.
Quel Tanguy Pastureau.
Et une petite erreur, l'amour a un prix pour Daniel Morin. Mais bon, voilà, je voulais juste le préciser.
Chacun avec ses armes. Hein.
C'est ça. Et on continue à parler ensemble de Comme des garçons.
Avec Vanessa Guide et Max Boubli.
Un seul mercredi. Est-ce que...
Vous êtes conscient d'avoir dit ça à l'antenne.
Oui, j'ai pensé, mais en ce moment, je dis à haute voix ce que je pense. C'est un peu le... Voilà, on est fatigué.
C'est une réflexion sociale.
C'est que Nagui n'est pas là, donc du coup, tu penses un peu autorisé à dire...
Là.
Tiens, d'ailleurs, Frédéric garde la parole. Toi, ta sensation après avoir vu Comme des garçons, puisque pour le coup, t'as vu le film.
Oui. Eh ben, en fait, alors déjà, le film est drôle, mais surtout esthétiquement, ouais. Dans la reconstitution de l'époque, j'ai trouvé ça véritablement très classe. Et en plus, dans la manière de présenter ces filles qui veulent devenir professionnelles, enfin même pas, qui veulent juste avoir une licence amateur.
Une licence.
Et je me suis rendu compte que même au niveau de la représentation du sport féminin, encore aujourd'hui, eh ben on était vraiment à la ramasse. Par exemple, en rugby féminin, les filles ont quand même gagné elles ont fait le grand chelem au
Absolument.
Tournoi des Cinq Nations.
Ouais.
Et en fait, on en a pratiquement pas parlé, quoi. Et en fait, il y a un univers encore qui reste à faire autour du sport féminin, parce qu'on a vraiment des sportives de tout temps et de toute classe sociale qui cartonnent. Et on reste focalisé sur des grands noms, donc le PSG avec Neymar, voilà. Et je trouve ça dommage. Et ça, le film rend justice et il montre aussi bien comment des organisations d'hommes assez sûr d'eux.
Ouais.
En fait, s'arrange pour garder ça sous une chape de plomb, parce que voilà, ça les gêne finalement de voir des femmes s'émanciper et faire du sport.
Vanessa, Max, est-ce que lors des projections en province, vous avez pu rencontrer des femmes ou même des hommes qui pouvaient tenir un tel propos?
Oui. Peut-être t'en as fait plus que moi. Vas-y, raconte un peu ça. Ce qu'il disait.
Non, c'est vrai. Au-delà de la comédie, c'est quand même le sujet aussi qui est très fort dans ce film de Julien Allard.
C'est effectivement les questions qui reviennent à chaque fois au moment du débat, et ça nous fait très plaisir parce que, voilà, effectivement, au-delà d'un feel-good movie, il y a tout le côté social et un peu engagé de ce film. Et il y a à chaque fois dans chaque projection des footballeuses qui viennent des équipes locales et qui nous disent que le chemin était encore, on n'est pas encore pas à mi-parcours, quoi. Elles nous disent qu'il y a encore beaucoup de machisme, que voilà, la place de la femme en tout cas dans le milieu du foot est pas encore totalement assise et que les choses ont bougé, mais quand même, c'était il y a 50 ans, notre film, il était à 50 ans. On se dit, en 50 ans, les choses auraient pu tellement évoluer, et ça n'évolue vraiment pas très très vite.
Et vous, Max, ça a changé votre regard sur le football féminin? Ça vous tenterait d'aller voir un match
J'ai vu quelques matchs que j'ai trouvé vraiment... déjà, ça joue très vite, ça joue très bien. C'est des matchs qui sont...
Il y a moins de simulation.
C'est très propre, les filles se jettent moins par terre.
Peut-être, un peu moins. En tous les cas, c'est vraiment...
Beaucoup moins.
Autant kiffant à regarder que les matchs de foot masculins, ça c'est sûr. Moi, c'est vrai que j'étais pas particulièrement intéressé par le foot féminin. J'ai jamais été spécialement, pour vous dire la vérité, féministe jusqu'à ce que j'ai deux filles, en fait. Et ça m'a complètement changé. C'était un truc que je regardais de loin, ni ça me dérangeait, ni ça m'intéressait particulièrement. Et maintenant que j'ai deux petites filles, je suis devenue une femme, carrément.
C'est vrai.
Non, c'est-à-dire que je suis vraiment intéressé par ça, parce que je me dis, le monde qu'on va leur laisser, il est assez injuste.
Ça veut dire que ça passe par quoi dans l'éducation que... Voilà,
ça, non, mais ça passe par une espèce de prise de conscience de parce que quand on est un mec, on est là, on est bien, on a un mec blanc de 30 ans en ce moment à Paris, on est bien, on s'est confortable, la vie est douce, tu vois, pour les mecs de 30 ans blancs, et c'est de se mettre à la place des autres de temps en temps, faire un effort, quoi, tout simplement.
Et comment tu vas leur expliquer, tu vas prendre quand elles seront en âge?
Tu vas prendre, déjà, c'est pas particulièrement masculin vers du féminin, c'est un message d'amour assez généraliste.
Oui, c'est vrai.
Et c'est une chanson hommage aussi.
Et c'est une chanson hommage, exactement.
Voilà, il suffit de savoir.
C'est universel.
C'était une bonne question de Vanessa, on attend qu'elles aient une quinzaine d'années, vous dites, pour
c'est vrai
rediscuter.
C'est vrai que leur expliquer toutes les chansons, ça va être quelque chose.
Un côté sociétal, je trouve, comme le père Albert. Le père Albert qu'on va retrouver après Estelle, American Boy.
Ah bon?
J'adore.
Sur France Inter, American Boy.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American.
this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Brooklyn, and I'd like to see what's good.
Estelle, American Boy, sur France Inter. Max Boublil, absolument, dans la bande originale. Leïla, on reçoit évidemment Max Boublil, accompagné de Vanessa Guide.
Pour Comme des garçons en salle dans deux dodos, pour reprendre la terminologie de notre pharaon adoré qui nous manque. Aujourd'hui.
Ouais, il est loin, là, je peux te dire.
Il est loin, il est au soleil,
lui,
autant te dire.
Rien à foutre de nous.
Autant vous dire qu'il n'ira pas au cinéma dans les 15 jours qui viennent. Il est beaucoup trop loin. Cette comédie militante, engagée, on l'a dit, qui revient sur un fait dont j'ignorais absolument l'existence. Voilà, cette formation de la première équipe féminine, la difficulté rencontrée, surtout face à la Fédération Française de Football, qui refuse de délivrer à ces jeunes femmes des licences, considérant que c'est juste une distraction pour hommes, voilà, c'est simplement un spectacle pour hommes, des femmes qui jouent au football. Et les choses, on l'a dit, ont changé, pas suffisamment rapidement à notre goût encore, mais on espère que c'est sur le bon chemin.
Lui aussi, c'est un spectacle pour hommes. Le rêve du Père Albert.
On ne savait pas si bien dire. Chaque année, dans la nuit du 22 au 23 avril, comme c'est la Saint-Georges, saint patron des scouts, pour tenter de m'endormir, je me berce en chantonnant un chant de marche que j'entonne avec mes jeunes quand nous arpentons le bois de Boubou. Saint-Georges, guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges, guide-nous, rends-nous fermés prêt à tout. Et quand j'ai chanté « Rends-nous fermés prêt à tout », je me sens mieux. Et quand je me sens mieux, je me détends. Et quand je me détends, je m'étire. Et quand je m'étire, je baille. Et quand je baille, oh, il arrive que je me décroche la mâchoire. Et quand je me décroche la mâchoire, je me mets à hurler de douleur. Et quand je me mets à hurler de douleur, il faut m'emmener aux urgences de l'hôpital Pompidou. Et aux urgences de l'hôpital Pompidou, il me faut attendre des heures, car il y a des cas plus graves que le mien. Et quand j'ai attendu des heures à l'hôpital Pompidou, car il y a des cas plus graves que le mien, un infirmier vigoureux, nu sous sa blouse, vient enfin me chercher avec sa grosse seringue. Et quand un infirmier vigoureux, nu sous sa blouse, vient me chercher avec sa grosse seringue, il m'administre un analgésique puissant. Et quand on m'administre un analgésique puissant, je m'assoupis. Et quand je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors, Je rêve. Dans mon rêve, je me retrouvais en compagnie de Jean-Jacques Lang, le cousin de Jack, que vous connaissez. D'habitude, si volubile, Gigi restait étrangement silencieux. Alors que je l'interpellais, d'un geste, il me fit signe de me taire. Au bout d'une minute, n'y tenant plus, je lui demandais les raisons de son silence. « Mais enfin, Père Albert, aujourd'hui, 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, où l'on commémore le jour où décédèrent, hélas, Shakespeare et Cervantes. Aussi, étais-je en train d'observer une minute de silence en la mémoire de ces auteurs impérissables. D'ailleurs, Père Albert, à votre tour, vous devriez observer une minute de silence. « Gigi, je ne vais pas même en rêve observer une minute de silence, alors que je suis supposé interpréter un sketch écrit par Albert Algo, qui dans ce cas ne toucherait pas ses droits d'auteur et se trouverait privé de son gagne-pain. » À votre guise, Père Albert, je dois filer Dardard au Banana Café, préparer mon canon à confetti pour filer avec mon cousin Jack le 5e anniversaire du mariage pour tous instauré le 26 avril 2015. Une teuf d'enfer, à la fois laïque et œcuménique, puisque dans un esprit d'ouverture, seront présents sur le dance floor certains de vos collègues de toute confession. Monseigneur Di Falco, bien sûr, l'abbé Jacques Facial et l'établi, sœur Sourire Vertical, mais aussi le rabbin Isaac Salomon Toku, dit le rabbi Toku, les ayatollahs Titi Romini, l'imam Innova, sans oublier, venu de Marseille, le marabout Yabès. Voilà. Alors, et bien sûr, alors que bon tant pis, Max Boublil, qui interprétera en duo avec Vanessa Guide, ses tubes, ce soir, tu vas prendre J'aime les moches et Put Your Sex in the Air. Comme je lui expliquais qu'étant opposé à cette union contre nature, le mariage pour moi ne pouvant se concevoir qu'entre un papa, une maman, un papa, une... Gigi tourna les talons de ses souliers Louboutin pour foncer au banana. À peine était-il parti que survint un homme aux cheveux blancs et à la bouche sans lèvres, qui ressemblait étrangement à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de foot.
Bonjour, je ne suis pas Didier Deschamps, je suis son cousin et je m'appelle Jean Didier. Mais j'ai des idées pour le mondial, comme les bleus de l'équipe de France féminine font de belles performances, et bien... Je vais proposer, il parle comme ça, épais. Je vais proposer à Didier.
Quand il est beau, alors.
Je vais proposer, je ne bois jamais. Je vais proposer à Didier de former une équipe mixte. Et j'ai un slogan, Père Albert, qui devrait vous plaire. C'est un Mbappé, une nana, un Mbappé, une nana.
C'est un peu facile. Mais enfin, Jean Didier, ce que tu proposes là, c'est le football pour tous. Pourquoi pas, pendant que tu es, des vestiaires pour tous, ou dans les vapeurs moites de la douche, filles et garçons savonnettes à la main, mon cousin, ça donneront des ablutions si torrides que réciproques, dont je n'ose imaginer les conséquences libidineuses pour un sport aussi viril. Très énervé, Jean Didier me décocha alors un uppercut à la mâchoire et allait m'enfiler un autre quand je me réveillais en hurlant de douleur. Penché sur moi, l'infirmier de l'hôpital Pompidou m'expliqua simplement qu'il venait de me remettre la mâchoire en place. Bonne fin d'émission.
Merci mon père.
Merci mon père.
La bande originale. Sur France Inter.
Une équipe mixte, quelle belle idée. Mais nous, on parle de Comme des garçons en salle mercredi. Merci d'avoir été avec nous. Il est temps quand même de présenter nos excuses, Daniel.
Absolument. Désolé pour les minets de province, les comédies françaises dans les apparts de 200 mètres carrés et les rôles muets d'Alison Wheeler. Ce matin, Max Boublil a décidé de tout tracher. Désolé pour Roger Hanin, certains films de James Cameron et la ville de Besançon. Ce matin, Max Boublil a décidé de tout salir. Désolé pour Le Monde Réel. Ce matin, Vanessa Guide nous a prouvé en regardant la chaîne Ina et en s'endormant le matin, qu'on pouvait très bien vivre sans le connaître, ce monde réel. Désolé pour nos auditeurs nostalgiques du grand Canal Plus qui, ce matin, ont dû revivre un cauchemar en entendant Vanessa Guide, Alison Wheeler et Max Boublil. Et ouais, rien que de le dire, c'est vrai que ça pique un petit peu.
Merci
à vous.
Tous les deux. On se retrouve demain, forcément, pour la bande originale, mon cher Daniel.
Avec Jean Telet.
Oh, génial, pour rentrer dans la danse. Un super roman.
Super livre.
Ouais.